Quatrième partie, chapitre 3. En toute autre circonstance, il ne serait rien résulté de l'incident orageux que nous venons de raconter. Ardalion Alexandrovitch avait déjà eu des crises semblables. Assez rarement, il est vrai, car c'était en général un homme fort paisible et doué d'inclinations plutôt bonnes que mauvaises. 100 fois peut-être, il avait essayé de réagir contre les habitudes de désordre contractées par lui dans ces dernières années. Il se rappelait tout d'un coup qu'il était père de famille, se réconciliait avec sa femme, versait des larmes sincères. Il vénérait jusqu'à l'adoration Nina Alexandrovna, qui lui pardonnait silencieusement tant de choses et qui continuait à l'aimer, nonobstant l'état de dégradation dans lequel il était tombé. Mais cette lutte généreuse contre les séductions du vice ne durait jamais bien longtemps. Le général était aussi, dans son genre, un homme impétueux. La vie tranquille et pénitente au sein de sa famille ne tardait pas à lui devenir insupportable, et il finissait par se révolter. Il avait des accès de colère qu'il se reprochait peut-être dans le moment même où il s'y abandonnait, mais qu'il ne pouvait maîtriser. Il cherchait querelle à son entourage, commençait à faire de l'éloquence, exigeait pour sa personne un respect illimité, mais en fin de compte disparaissait de la maison, où parfois il ne remettait pas les pieds de longtemps. Il avait renoncé depuis 2 ans à toute intervention dans les affaires de sa famille, et il n'en connaissait que ce qu'il apprenait par ouï-dire. Mais cette fois, la crise du général ne ressemblait pas aux précédentes. On aurait dit que tout le monde savait quelque chose dont personne n'osait parler. Il y avait 3 jours seulement qu'Ardalion Alexandrovitch était rentré dans le giron de la famille. Mais, au lieu d'y reparaître avec l'humilité d'un coupable repentant, comme c'était son habitude invariable en pareil cas, il avait, au contraire, dès son retour à la maison, fait preuve d'une irritabilité étrange. Bavard, inquiet, il adressait vivement la parole à tous ceux qu'il rencontrait et se jetait sur l'auditeur en quelque sorte comme sur une proie. Mais ses conversations roulaient toujours sur des sujets si variés et si inattendus qu'il n'y avait pas moyen de découvrir la véritable cause de son inquiétude présente. Il avait des moments de gaieté, mais le plus souvent il était pensif, sans que, du reste, lui-même sût au juste à quoi il pensait. Tout d'un coup, il se mettait à raconter quelque chose, sur les Epanchines, sur le prince, sur les Bedef. Et brusquement, il cessait de parler, avant d'être arrivé à la fin de son récit. Lorsqu'on l'interrogeait pour connaître la suite de l'histoire, il ne répondait que par un sourire hébété. D'ailleurs, il ne remarquait même pas les questions qui lui étaient adressées. Durant la dernière nuit, il ne fit que soupirer et gémir, ce qui inquiéta fort Nina Alexandrovna. Croyant son mari indisposé, elle passa toute la nuit à lui faire chauffer des cataplasmes. Vers l'aurore, le général s'endormit. 4 heures après, il s'éveilla en proie à un violent accès d'hypocondrie qui aboutit à la querelle avec Hippolyte et à la malédiction que l'on sait. Pendant ces 3 jours, on observa aussi en lui un amour-propre excessif, joint naturellement à une susceptibilité extraordinaire. Kolia assurait sans cesse à Nina Alexandrovna que son père avait le spleen parce qu'il ne buvait plus, et peut-être aussi parce qu'il ne voyait plus les Bedef, dont il était devenu depuis quelque temps l'ami intime. Mais 3 jours auparavant, le général s'était brouillé avec les Bedef. Il avait même eu une scène avec le prince. Kolia demanda à celui-ci des explications, et finit par se douter qu'il y avait quelque chose que le prince ne voulait pas lui dire. Si, comme Gania le supposait avec beaucoup de vraisemblance, une conversation particulière avait eu lieu entre Hippolyte et Nina Alexandrovna, on s'expliquerait difficilement que ce méchant monsieur, à qui Gagnin avait si ardemment lancé l'épithète de cancanier, ne se fût pas fait aussi un plaisir de mettre Colia au courant des choses. Peut-être qu'Hippolyte n'était pas un aussi méchant gamin que Gagnin l'avait dit en causant avec sa sœur, ou que du moins sa méchanceté était d'un autre genre. Il est également douteux qu'il ait communiqué le résultat de ses observations à Nina Alexandrovna dans le seul but de lui déchirer le cœur. N'oublions pas que les causes des actions humaines sont d'ordinaire infiniment plus complexes et plus variées qu'on ne se le figure après l'événement. Parfois, le mieux pour le narrateur est de se borner au simple exposé des faits. Ainsi allons-nous procéder dans l'explication de la catastrophe survenue au général. Après s'être allé à Pétersbourg dans l'intention de retrouver Ferdichenko, Lebedev revint le même jour avec Ardalion Alexandrovitch et ne communiqua rien de particulier au prince. Si ce dernier avait été moins distrait et moins absorbé par des préoccupations d'un caractère plus personnel, il aurait pu aisément remarquer que le lendemain et le surlendemain, Lebedev, loin de lui donner aucun éclaircissement, avait paru au contraire éviter sa présence. Ce détail ayant enfin attiré l'attention du prince, il se rappela avec surprise que durant ces 2 jours, quand le hasard lui avait fait rencontrer Lebedev, il l'avait toujours vu rayonnant de satisfaction, et le plus souvent en compagnie du général. Les deux amis ne se quittaient guère. Parfois, le prince entendait au-dessus de lui des conversations bruyantes et pleines d'entrain, des discussions enjouées auxquelles se mêlaient des rires. Une fois même, à une heure fort avancée de la soirée, quelques notes d'une chanson semi-guerrière, semi-bachique arrivèrent tout à coup à ses oreilles, et il reconnut aussitôt la basse enrouée du général. Mais soudain le chanteur s'arrêta court. Pendant 1 heure encore, la causerie continua, vive et animée. Tous les indices donnaient à penser que les 2 interlocuteurs étaient ivres. À un certain moment, le prince put deviner qu'ils s'embrassaient et que l'un d'eux fondait en larmes. Puis il perçut le bruit d'une violente dispute. Après quoi, tout retomba brusquement dans le silence. Durant tout ce temps, Colia était très soucieux. Le prince passait la plus grande partie de la journée hors de chez lui et parfois ne rentrait au logis que fort tard. À son retour, on ne manquait jamais de lui apprendre que Nicolas Ardalionovitch était venu à plusieurs reprises le demander. Mais lorsqu'ils se rencontraient, Colia ne pouvait rien dire, sinon que, décidément, il était mécontent du général et de sa conduite présente. On les voit continuellement ensemble. Ils s'enivrent dans un tractir près d'ici, ils s'embrassent et se font des scènes dans la rue, ils s'excitent l'un l'autre et ne peuvent se quitter. Quand le prince lui faisait remarquer qu'il en avait toujours été ainsi, Colia ne savait que répondre, ni comment préciser le motif de son inquiétude actuelle. Le lendemain du jour où le général avait chanté une chanson bachique, et s'était disputé avec Lebedev, le prince se disposait à sortir vers 11 heures du matin, lorsque, devant lui, apparut tout à coup Ardalion Alexandrovitch, extrêmement agité, presque tremblant. « Depuis longtemps, je cherchais l'honneur et l'occasion de vous rencontrer, très estimé Léon Nikolaïevitch. Depuis longtemps, fort longtemps. » murmura-t-il en serrant presque à lui faire mal la main du prince. « Depuis très, très longtemps. » Le prince l'invita à s'asseoir. « Non, je ne m'assiérai pas. D'ailleurs, vous alliez sortir. Ce sera pour une autre fois. Et il paraît que je puis vous féliciter de l'accomplissement des désirs de votre cœur. » Le prince se troubla. Avec l'aveuglement des amoureux, il se figurait que personne ne voyait, ne devinait et ne comprenait rien. « De quel désir parlez-vous » demanda-t-il. « Soyez tranquille, je n'alarmerai pas des sentiments très délicats. Je sais moi-même par expérience qu'on n'aime pas qu'un nez étranger, comme dit le proverbe, se fourre là où on ne le demande pas. J'éprouve cela tous les matins. C'est pour autre chose que je suis venu, pour une affaire importante, très importante, prince. » Le prince le pria encore une fois de s'asseoir et s'assit lui-même. « Je ne resterai qu'une seconde. Je suis venu pour avoir un conseil. Sans doute je n'ai pas de but positif dans la vie, mais me respectant moi-même et estimant l'esprit pratique, dont le russe est si dépourvu en général, je désire me mettre, ainsi que ma femme et mes enfants, dans une position. En un mot, prince, j'ai besoin d'un conseil. » Le prince approuva chaleureusement les intentions du général. « Allons, tout cela ne signifie rien, » interrompit brusquement celui-ci. « Tel n'est pas le principal objet de ma visite. Je suis venu pour autre chose, pour une affaire grave. J'ai résolu de m'ouvrir à vous, Léon Nikolaïevitch, comme à un homme dont la sincérité des procédés et la noblesse des sentiments sont aussi sûres pour moi que... Vous ne vous étonnez pas de mes paroles, prince ?» Le prince observait son visiteur, sinon avec beaucoup d'étonnement, du moins avec une attention et une curiosité extrêmes. Le vieillard était un peu pâle, ses lèvres tremblaient parfois légèrement, ses mains semblaient ne pouvoir rester en repos. Quoiqu'il ne fût assis que depuis quelques minutes, il s'était déjà levé brusquement à deux reprises, puis avait soudain repris sa place. Tous ces mouvements se produisaient évidemment sans qu'il en eût conscience. Des livres se trouvaient sur la table. Il en prit un, l'ouvrit tout en causant, et, après y avoir jeté les yeux, se hâta de le fermer. Quand il l'eut remis en place, il en prit un autre. Celui-ci, il ne l'ouvrit point, mais le garda tout le temps dans sa main droite, qu'il ne cessait de mouvoir en l'air. « Assez !» cria-t-il tout à coup. « Je vois que je vous ai beaucoup dérangé. » « Mais pas du tout, allons donc, je vous écoute au contraire, et je voudrais deviner... Prince, je désire me mettre dans une position honorée, je désire m'estimer moi-même, ainsi que mes droits. » Par cela seul qu'un homme a ce désir, il est déjà digne de toute estime. C'était une phrase empruntée à un modèle d'écriture. Le prince pensait que, dans l'état d'esprit où se trouvait Ardalion Alexandrovitch, un aphorisme d'une sonorité creuse mais agréable pourrait exercer sur lui une action calmante. La phrase plut beaucoup au général. Touché et flatté, il changea de ton instantanément et, d'une voix solennelle, commença à donner de longues explications. Mais, nonobstant l'attention que le prince prêta aux paroles de son interlocuteur, il lui fut absolument impossible d'y rien comprendre. Pendant 10 minutes, le général discourut avec une volubilité extrême. On aurait dit qu'il était débordé par l'abondance des idées qu'il avait à exprimer. Vers la fin, des larmes même se montrèrent dans ses yeux. Malheureusement, ses phrases n'avaient ni queue ni tête. C'était un flux de mots incohérents qui se succédaient sans interruption. « Assez, vous m'avez compris, et je suis tranquille, » acheva-t-il tout à coup en se levant. « Un cœur comme le vôtre ne peut pas ne pas comprendre un homme affligé. Prince, vous êtes noble comme l'idéal. Que sont les autres vis-à-vis de vous? Mais vous êtes jeune et je vous bénis. En fin de compte, je suis venu vous prier de m'indiquer une heure où je puisse avoir avec vous un entretien sérieux. Et voilà en quoi consiste mon principal espoir. Je cherche une amitié et un cœur, prince. Je n'ai jamais pu venir à bout des exigences de mon cœur. » « Mais pourquoi pas tout de suite? Je suis prêt à vous entendre. » « Non, prince, non !» répliqua vivement le général. « Pas tout de suite. Tout de suite est un rêve. C'est trop important, trop important. Cette heure de conversation décidera de mon sort. Ce sera mon heure, et je ne voudrais pas que dans un moment si sacré, le premier venu, un insolent, puisse nous interrompre. » Il se pencha soudain à l'oreille du prince et poursuivit à voix basse, d'un air étrange, mystérieux, presque effrayé.
« Un insolent qui ne vaut pas le talon de votre botte, prince adoré.
Non, oh, je ne dis pas de ma botte.
Notez que je n'ai pas parlé de la mienne, car je me respecte trop pour dire cela sans embâge. Mais vous seul êtes capable de comprendre qu'en passant sous silence dans le cas présent le talon de ma botte, je révèle peut-être une fierté, une dignité extraordinaire. Sauf vous, personne ne comprendra cela. Et lui, moins que tout autre. Il ne comprend rien, prince. Il est absolument incapable de comprendre, absolument. Il faut avoir du cœur pour comprendre. »
À la fin, le prince fut presque effrayé, et il fixa au général une entrevue pour le lendemain à la même heure. Le vieillard se retira grandement réconforté et consolé. Le soir, entre 6 et 7 heures, le prince fit prier Lebedev de venir une minute auprès de lui. Lebedev tint à honneur, comme il le dit en entrant, de se rendre sans délai à cette invitation. On ne se serait jamais douté, à le voir arriver si vite, que depuis 3 jours, il évitait de se rencontrer avec le prince. L'employé s'assit sur le bord d'une chaise, grimaçant, souriant, clignant les yeux, se frottant les mains. Sa physionomie était celle d'un homme qui s'apprête naïvement à recevoir communication d'une grande nouvelle depuis longtemps attendue et devenue en quelque sorte le secret de Polichinelle. Le prince se sentit de nouveau mal à l'aise. Il s'apercevait maintenant que tous comptaient apprendre de lui quelque chose et semblaient vouloir lui adresser des félicitations. On l'abordait avec des sourires, des clignements d'yeux, des demi-mots significatifs. Keller était déjà passé 3 fois, amené lui aussi par le désir évident de féliciter son Altesse. Chaque fois, après avoir commencé un compliment dithyrambique et obscur, il s'était esquivé sans achever son speech. Depuis quelques jours, le boxeur pratiquait avec un redoublement d'assiduité le culte de la bouteille et du billard. Kolia lui-même, malgré son chagrin, avait à 2 reprises, en causant avec le prince, fait allusion à certaines choses. Sans préambule, d'un ton légèrement fâché, le prince demanda à Lebedev ce qu'il pensait de l'état présent du général et pourquoi Ardalion Alexandrovitch était dans une telle inquiétude. Il lui raconta en quelques mots la scène précédente.
« Chacun a ses soucis, prince, et surtout dans notre siècle étrange et inquiet. C'est ainsi, » répondit assez sèchement Lebedev.
Son désappointement et son dépit étaient visibles.
« Quelle philosophie !» observa en souriant le prince. « Il faut de la philosophie. Elle serait très nécessaire à notre époque, dans son application pratique. Mais on la méprise, voilà le malheur. »
Quant à moi, très estimé prince, j'ai pu être honoré de votre confiance dans un certain cas que vous connaissez. Mais cela jusqu'à un certain point seulement, et jamais en dehors des circonstances qui se rapportaient directement à ce cas unique. Je comprends cela, et je ne me plains pas du tout.
Lebedev, on dirait que vous êtes fâché.
Nullement, pas le moins du monde, très estimé, très rayonnant prince. S'écria avec exaltation Lebedev en mettant la main sur son cœur.
Au contraire, j'ai compris tout de suite que ni par ma position dans le monde, ni par mon développement intellectuel et moral, ni par ma fortune, ni par mes antécédents, ni par mon savoir, par rien enfin, je ne méritais l'honneur de votre confiance, et que si je pouvais vous servir, c'était seulement comme esclave. Comme mercenaire, pas autrement. Je ne suis pas fâché, mais triste.
Allons donc, Loukian Timofeïtch.
Pas autrement, maintenant encore j'en ai la preuve. Quand je vous ai rencontré, quand mon cœur et mon esprit se sont attachés à vous, je me disais, sans doute je n'ai pas le droit d'attendre des communications amicales, j'en suis indigne, mais peut-être, comme propriétaire de la maison, Pourrais-je recevoir, au moment voulu, un ordre ou un avis en vue de certains changements prochains et attendus ? En prononçant ces mots, Lébédev tenait ses petits yeux fixés sur le visage du prince qui le considérait avec étonnement. L'employé espérait encore que sa curiosité serait satisfaite. « Décidément, je n'y comprends rien !» cria le prince d'un ton presque irrité. « Et vous êtes un terrible intrigant » ajouta-t-il tout à coup avec un franc éclat de rire. Lébédev s'associa aussitôt à cette hilarité. Ses yeux rayonnèrent. Il croyait toucher à la réalisation de ses espérances. « Et savez-vous ce que je vous dirais, Loukian Timofeïtch ? Seulement ne vous fâchez pas. J'admire votre naïveté, et vous n'êtes pas le seul à m'étonner, d'ailleurs. Tenez, en ce moment, vous témoignez un si naïf désir d'apprendre de moi quelque chose que vraiment je suis honteux de ne pouvoir vous satisfaire. Mais je vous jure que je n'ai absolument rien à vous dire. Pouvez-vous imaginer cela ?» acheva le prince avec un nouveau rire. Lébédev prit un air digne. Sans doute sa curiosité se manifestait parfois trop naïvement et d'une façon importune. Mais c'était aussi un homme assez rusé. Il savait même, dans certains cas, garder un silence machiavélique. N'ayant pu arracher aucune confidence à son locataire, il en vint presque à le haïr. Assurément, si le prince se montrait si peu communicatif avec lui, ce n'était pas par mépris, mais parce que Lébédev l'entreprenait sur un sujet fort délicat. Il n'y avait pas si longtemps que Mushkine considérait encore comme un crime de nourrir certains rêves. Mais sa réserve fut interprétée autrement par Loukian Timofeïtch, qui n'y vit qu'une injurieuse marque de défiance. L'employé se crut tenu en suspicion, et la jalousie lui mordit le cœur à la pensée que non seulement Kolia et Keller, mais même sa propre fille, Viera Lukianovna, avaient plus de part que lui à la confiance du prince. Peut-être en cet instant même aurait-il pu communiquer au prince une nouvelle du plus haut intérêt pour ce dernier. Peut-être l'aurait-il sincèrement désiré, mais, par esprit de vengeance, il se décida à n'en rien faire. « En quoi donc puis-je vous servir, très estimé prince, car vous m'avez maintenant appelé ?» demanda-t-il après un silence. Le prince ne répondit aussi qu'au bout d'une minute. « Eh bien, voilà, je voulais vous parler du général et de ce vol dont vous avez été victime.
Comment ? Quel vol ?
Allons, on dirait que vous ne comprenez pas. Ah, mon Dieu, Loukian Timofeïtch, quelle est cette rage de toujours jouer la comédie ? L'argent, l'argent, les 400 roubles que vous avez perdus l'autre jour dans un portefeuille, et dont vous êtes venu ici me parler le matin avant d'aller à Pétersbourg. Avez-vous compris à la fin ? Ah, il s'agit de ces 400 roubles, dit d'une voix traînante Lébédev, comme si la lumière venait de se faire dans son esprit. « Je vous remercie, prince, de votre sincère intérêt. Il est très flatteur pour moi. Mais je les ai retrouvés, il y a même déjà longtemps. »«
Vous les avez retrouvés ? Ah ! Dieu soit loué !»
Cette exclamation est d'un cœur noble, car 400 roubles ne sont pas une petite affaire pour un homme pauvre qui vit d'un travail pénible et qui a une nombreuse famille.
« Je ne parle pas de cela !» s'écria le prince.
« Sans doute, se reprit-il aussitôt, je suis bien aise aussi que vous ayez retrouvé votre argent, mais comment donc l'avez-vous retrouvé ?»«
Le plus simplement du monde. Il était sous la chaise sur laquelle j'avais jeté ma redingote. » Évidemment, le portefeuille aura glissé de la poche sur le parquet.
Comment, sous la chaise ? Ce n'est pas possible. Vous m'avez dit que vous aviez cherché partout, dans tous les coins. Comment donc n'avez-vous pas regardé à l'endroit où il fallait chercher tout d'abord ?
Le fait est que j'y ai regardé. Je me souviens très bien d'y avoir regardé.
je me suis traînée à quatre pattes sur le parquet. J'ai tâté avec les mains en cet endroit. J'ai reculé la chaise, n'en croyant pas mes propres yeux. Je vois qu'il n'y a rien, la place est vide, pas plus de portefeuille que sur ma main. Et malgré cela, je me remets à tâter. C'est une petitesse dont l'homme est coutumier quand il veut absolument retrouver quelque chose. Quand il a fait une perte considérable et douloureuse, il voit qu'il n'y a rien, que la place est vide, mais n'importe, il y regarde 15 fois. Oui, soit, mais comment se fait-il?
Je ne comprends toujours pas,
murmura le prince abasourdi. Auparavant, dites-vous, il n'y avait rien là. Vous aviez cherché en cet endroit, et tout d'un coup, le portefeuille s'y est trouvé.
Oui, il s'y est trouvé tout d'un coup.
Le prince regarda les bédèves d'un air étrange. Et le général? Demanda-t-il soudain.
Comment, le général?
Questionna les bédèves, feignant encore de ne pas comprendre.
Ah, mon Dieu! Je vous demande ce qu'a dit le général quand vous avez retrouvé le portefeuille sous la chaise. Précédemment, vous l'aviez cherché à deux.
Précédemment, oui. Mais cette fois, je l'avoue, je me suis tue, et j'ai préféré lui laisser ignorer que le portefeuille avait été retrouvé par moi tout seul.
Mais pourquoi donc? Et l'argent n'avait pas disparu?
J'ai visité le portefeuille, tout y était, il ne manquait pas un rouble.
Vous auriez dû venir me le dire,
observa pensivement le prince.
Je craignais de vous déranger personnellement, prince, au milieu de vos impressions personnelles, et peut-être extraordinaires, si je puis m'exprimer ainsi. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait semblant de n'avoir rien trouvé. Après m'être assuré que la somme était intacte, j'ai fermé le portefeuille et je l'ai remis sous la chaise.
Mais pourquoi donc ?
Lebedev se mit à rire.
« Pour rien, parce que je voulais pousser plus loin mon enquête, » répondit-il en se frottant les mains.
« Ainsi, il est encore là maintenant, depuis avant-hier. »
« Oh non, il n'est resté là que 24 heures. Voyez-vous, jusqu'à un certain point, je désirais que le général le trouvât aussi. Car, me disais-je, si j'ai fini par le découvrir, pourquoi le général n'apercevrait-il pas aussi un objet qui, pour ainsi dire, saute aux yeux, qu'on voit parfaitement sous la chaise? Plusieurs fois j'ai pris cette chaise, et je l'ai changée de place afin que le portefeuille fût tout à fait en évidence. Mais le général ne l'a pas remarqué, et cela a duré 24 heures. Il est clair qu'à présent le général est fort distrait, c'est à n'y rien comprendre. Il cause, il raconte des histoires, il rit, et tout d'un coup il se fâche contre moi, sans que je sache pour quel motif. Finalement, nous sommes sortis de la chambre, j'ai laissé exprès la porte ouverte. Il était ébranlé tout de même, il voulait dire quelque chose. Apparemment, il craignait pour un portefeuille contenant une si forte somme. Mais soudain, il s'est mis en colère et n'a rien dit. À peine avions-nous fait 2 pas dans la rue, qu'il m'a planté là et est allé d'un autre côté. Le soir seulement, nous nous sommes retrouvés au Tratkir. Mais à la fin, vous avez repris votre portefeuille?
Non, cette même nuit, il a disparu de dessous la chaise.
Alors, où est-il donc maintenant?
À ces mots, Lebedev se dressa brusquement de toute sa taille et regarda le prince d'un air jovial.
Mais ici? Répondit-il en riant. Il s'est trouvé tout d'un coup ici, dans le pan de ma propre redingote. Tenez, regardez vous-même, tâtez.
En effet, dans le pan gauche de la redingote, par devant, s'était formé de la façon la plus apparente une sorte de sac, où, au toucher, on pouvait tout de suite reconnaître la présence d'un portefeuille en cuir, qui sans doute, passant à travers une poche trouée, avait glissé entre la doublure et l'étoffe du vêtement.
Je l'ai retiré pour le visiter. Les 400 roubles étaient encore au complet. Je l'ai remis à la même place, et depuis hier matin je le porte ainsi dans le pan de ma redingote. Je me promène avec, il me bat les jambes.
Et vous ne remarquez rien?
Et je ne remarque rien, et figurez-vous, très estimé prince, quoique le sujet ne mérite pas d'attirer si particulièrement votre attention, mes poches sont toujours en bon état. Et tout d'un coup, en une nuit, un pareil trou. J'ai voulu me rendre compte, et en examinant la déchirure, il m'a semblé que quelqu'un avait dû faire cela avec un canif. C'est presque invraisemblable. Et le général ? Hier, il n'a pas décoléré de toute la journée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il est de très mauvaise humeur. Par moments, il manifeste une gaieté bachique ou une sensibilité larmoyante, puis tout d'un coup, il se fâche au point de m'effrayer positivement. Moi, prince, après tout, je ne suis pas un homme de guerre. Hier, nous étions ensemble au tractir. Voilà que, comme par hasard, le pan de ma redingote apparaît en évidence avec son gonflement insolite. Le général me fait la mine, se fâche. Depuis longtemps déjà, il ne me regarde plus en face, si ce n'est quand il est très pris de boisson ou très attendri. Mais hier, il m'a regardé deux fois d'une telle façon que j'en ai eu froid dans le dos. Du reste, demain, j'ai l'intention de retrouver le portefeuille. Mais d'ici là, je passerai encore une petite soirée avec lui au tractir. « Pourquoi le tourmentez-vous ainsi ? » cria le prince. « Je ne le tourmente pas, prince, je ne le tourmente pas, » répliqua avec chaleur Lebedev. « Je l'aime sincèrement et je l'estime. À présent, vous le croirez ou vous ne le croirez pas, il m'est devenu plus cher que jamais. » J'ai commencé à l'apprécier encore plus qu'auparavant. » Ces mots furent prononcés d'un ton si sérieux et avec une telle apparence de sincérité que le prince ne put les entendre sans indignation. « Vous l'aimez et vous le faites souffrir ainsi. Voyons, il s'est arrangé de façon à vous faire retrouver l'objet perdu. Pour attirer votre attention sur ce portefeuille, il l'a placé sous une chaise et dans votre redingote. Par cela seul, il vous montre bien qu'il ne veut pas ruser avec vous, mais qu'il vous prie ingénument de lui pardonner. Écoutez, il demande pardon. Par conséquent, il compte sur la délicatesse de vos sentiments. Par conséquent, il croit à votre amitié pour lui. Et vous réduisez à un tel abaissement un si honnête homme. » « Très honnête, prince, très honnête, » répéta Lebedev dont les yeux étincelaient. « Et vous seul, très noble prince, étiez capable de dire un mot si juste. Pour cela, je vous suis dévoué jusqu'à l'adoration, quelque pourri de vice que je sois. C'est décidé, je vais retrouver le portefeuille tout maintenant, à l'instant même, et pas demain. Tenez, je le tire de ma redingote sous vos yeux. Le voilà, voilà aussi tout l'argent. Tenez, prenez-le, très noble prince, et gardez-le jusqu'à demain. » « Demain ou après-demain, je le reprendrai. » « Mais faites attention, n'allez pas de but en blanc lui jeter au nez que vous avez retrouvé le portefeuille. Qu'il voit seulement que le pan de votre redingote ne contient plus rien, et il comprendra. « Oui, ne vaut-il pas mieux lui dire que je l'ai retrouvé, et faire comme si jusqu'alors je ne m'étais douté de rien ?»« Non, » dit le prince en réfléchissant. « Non, maintenant il est trop tard, ce serait plus dangereux. Vraiment, vous ferez mieux de ne rien dire. Et soyez gentil avec lui, mais n'ayez pas trop l'air. Et vous savez... »« Je sais, prince, je sais. C'est-à-dire, je sais que j'aurai bien du mal à exécuter ce programme, car il faut pour cela avoir un cœur comme le vôtre. D'ailleurs, moi-même, je suis vexée. À présent, il le prend parfois de trop haut avec moi. Il m'embrasse en sanglotant, puis tout d'un coup, il se met à m'humilier. Il m'accable de railleries méprisantes. Allons, je prendrai le portefeuille et j'étalerai exprès le pan de ma redingote sous les yeux du général. Au revoir, prince, car évidemment je vous dérange. Je vous distrais de sentiments très intéressants, si je puis ainsi parler. » « Mais pour l'amour de Dieu, silence comme par le passé !»« À la sourdine ! À la sourdine !» Quoique l'affaire fût finie, le prince resta plus soucieux peut-être qu'il ne l'avait été auparavant.
il attendit impatiemment l'entrevue qu'il devait avoir le lendemain avec le général. Chapitre 4. L'heure fixée pour le rendez-vous était midi, mais le prince s'attarda hors de chez lui et, quand il rentra à la maison, il y trouva le général qui l'attendait. À première vue, il remarqua que le vieillard était mécontent, peut-être parce qu'il lui avait fallu attendre. Après s'être excusé, le prince se hâta de s'asseoir, mais il éprouvait une gêne étrange, comme si son visiteur était en porcelaine et qu'il craignit à chaque instant de le casser. Jusqu'alors, jamais il n'avait été intimidé en présence du général, et même il n'aurait jamais supposé que cela pût arriver. Le prince s'aperçut vite qu'il avait devant lui un tout autre homme que la veille. Ardalion Alexandrovitch n'était plus ni troublé ni distrait. Il semblait se posséder parfaitement, et son aspect donnait à penser qu'il avait pris quelque résolution définitive. Ce calme, du reste, était plus apparent que réel. En tout cas, une dignité contenue se joignait chez le visiteur à l'aisance aristocratique des manières. Ce fut même avec une sorte d'indulgence hautaine qu'il accueillit les excuses du prince. Il y répondit en termes aimables, mais où perçait néanmoins le chagrin d'un homme fier, injustement offensé. « Je vous ai rapporté le volume que vous m'avez prêté l'autre jour. Je vous remercie. » dit-il en montrant une livraison de revues qu'il venait de déposer sur la table. « Ah oui, vous avez lu cet article, général? Comment l'avez-vous trouvé? Il est curieux, n'est-ce pas ?» demanda le prince, heureux de pouvoir mettre tout d'abord la conversation sur des choses indifférentes. « Curieux, si vous voulez, mais grossier et sans doute absurde. Peut-être même n'est-ce qu'un tissu de mensonge. » Le général parlait avec aplomb et entraînant un peu la voix. Ah, c'est une relation si naïve, le récit d'un vieux soldat qui a été témoin oculaire du séjour des Français à Moscou. Certaines choses sont charmantes. D'ailleurs, des mémoires écrits de visu sont toujours précieux, quel que soit le narrateur, n'est-il pas vrai? À la place du rédacteur en chef, je n'aurais pas inséré cela. Pour ce qui est des documents contemporains en général, on accorde plus de créance au conte d'un menteur effronté mais amusant qu'au témoignage consciencieux d'un homme qui a bien mérité de son pays. Je connais certains mémoires sur l'année 1812 qui... J'ai pris une résolution, prince. Je quitte cette maison, la maison de Monsieur Lebedev. En même temps, le général regardait son interlocuteur d'un air significatif. « Vous avez votre logement à Pavlovsk, chez votre fille ?» observa le prince, ne sachant que dire. Il se rappelait que le général était venu pour le consulter au sujet d'une affaire fort importante d'où dépendait son sort. « Chez ma femme, autrement dit. Chez moi et dans la maison de ma fille. » « Excusez-moi, je quitte la maison de Lebedev parce que, cher prince, j'ai rompu avec cet homme. J'ai rompu hier soir, en regrettant de ne l'avoir pas fait plus tôt. Je tiens à la considération, prince, et je désire l'obtenir même des personnes à qui je donne en quelque sorte mon cœur. Prince, je donne souvent mon cœur, et presque toujours je suis trompé. Cet homme était indigne de mon présent. » « Il est fort désordonné, observa posément le prince, et il a certains défauts, mais au milieu de tout cela, on remarque du cœur, un esprit fin et parfois amusant. » Le prince choisissait ses expressions et parlait d'un air respectueux. Tout cela flattait le vieillard, quoique de temps à autre, il examinât encore, avec une défiance subite, le visage de son interlocuteur. Mais le ton de ce dernier était trop naturel et trop sincère pour laisser place au moindre doute. « Qu'il possède aussi de bonnes qualités, reprit le général,
j'ai été le premier à le reconnaître, par cela seul que j'ai presque accordé mon amitié à cet individu. Mais je n'ai pas besoin de sa maison ni de son hospitalité, ayant moi-même une famille. Je ne prétends pas être sans défaut. Je suis intempérant. Je buvais du vin avec lui, et maintenant, peut-être, je pleure en pensant à cela. Mais était-ce uniquement pour la boisson ? Pardonnez, prince, cette brutale franchise à un homme irrité. Était-ce uniquement pour la boisson que je le fréquentais ? Non, j'avais été séduit justement par ces qualités dont vous venez de parler. Mais il y a une limite à tout. Et s'il a le front de soutenir devant moi qu'en 1812, étant enfant, il a perdu sa jambe gauche et l'a fait inhumer au cimetière Vagankovskoye, à Moscou, eh bien, cela passe la mesure. C'est un manque de respect, une insolence. Ce n'était peut-être qu'une plaisanterie. Il aura dit cela pour rire. Je comprends. Un innocent mensonge qu'on raconte pour faire rire, quelque grossier qu'il soit, n'offense pas le cœur de l'homme. Il y a même des gens qui ne mentent que par amitié, en quelque sorte, afin de procurer par là du plaisir à celui avec qui ils causent. Mais si on a l'air de prendre l'auditeur pour un imbécile, si par cette irrévérence on veut peut-être lui montrer qu'on est là de sa société, en ce cas, un homme noble n'a qu'une chose à faire, remettre l'insolent à sa place et cesser absolument de le voir. Tandis qu'il prononçait ces paroles, le général était devenu rouge d'indignation. Mais Lebedev n'a même pas pu se trouver à Moscou en 1812. Il est trop jeune pour cela. C'est ridicule. Il y a d'abord cela. Mais mettons qu'il fût déjà né à cette époque. Comment ose-t-il dire qu'un chasseur français a pointé sur lui une pièce de canon et lui a cassé la jambe comme cela pour s'amuser ? Qu'il a ramassé cette jambe, l'a rapportée chez lui, puis l'a fait inhumer dans le cimetière Vagankovskoye. Il ajoute qu'à l'endroit où elle est enterrée, il a fait ériger un monument sur lequel on lit d'un côté « Siji, la jambe du secrétaire de collège Lebedev » et de l'autre « Repose, chère cendre, en attendant le jour de la résurrection. » Enfin, il assure que tous les ans, il fait dire une messe pour elle, ce qui est un sacrilège, et que chaque année il se rend à Moscou afin d'assister à cette cérémonie. Pour me prouver la vérité de ses paroles, il m'invite à venir avec lui à Moscou. Il me montrera la tombe, et même le canon français, qui, dit-il, a été pris par les Russes et se trouve maintenant au Kremlin. C'est le 11e en comptant à partir de la porte, un faux canon français d'ancien système. Et avec tout cela, il a bel et bien ses deux jambes. « Ou du moins, il paraît les avoir !» fit en riant le prince. « Je vous assure que c'est une innocente plaisanterie. Ne vous fâchez pas. Mais permettez-moi d'avoir aussi mon opinion. Quant aux deux jambes qu'il paraît posséder, ce ne serait pas encore là un argument tout à fait sans réplique. Il prétend qu'il a une jambe articulée. » « Ah oui, avec une jambe de Tchernosvitov, on peut danser, dit-on. » « Je le sais parfaitement. Lorsque Tchernovitov a inventé sa jambe, il s'est empressé de venir me la montrer. Mais c'est beaucoup plus tard que Tchernovitov a inventé sa jambe. De plus, Lebedev assure que sa défunte femme elle-même, pendant toute la durée de leur union, a ignoré qu'il avait une jambe de bois. Si tu as été en 1812 page de la chambre de Napoléon, m'a-t-il dit quand je lui ai fait remarquer toutes les absurdités de son récit, « tu n'as pas le droit de t'étonner que j'ai une jambe enterrée au cimetière Vagankovskoye. » « Mais est-ce que vous... » commença le prince, et il se troubla. Sur le moment, le général parut lui aussi quelque peu troublé, mais il se remit vite et regarda le prince d'un air hautain, presque moqueur. « Achevez, prince, » dit-il d'une voix traînante, « achevez. Je suis indulgent, dites tout, avouez-le. Entre ce que vous voyez et ce que vous entendez, le contraste vous semble bouffon. Vous ne pouvez pas vous imaginer sans rire qu'un homme qui vous offre aujourd'hui le spectacle de son abaissement et de son inutilité ait été jadis témoin oculaire de grands événements, Il ne vous a pas encore fait de potin ?
Non, Lebedev ne m'a rien dit, si c'est de lui que vous parlez.
Je supposais le contraire. Hier, pendant que j'étais avec lui, la conversation est tombée sur cet étrange article dont il était question tout à l'heure. J'en ai signalé l'absurdité, et comme moi-même j'ai été témoin oculaire...
Vous souriez, prince ? Vous considérez mon visage ?
Non, je... J'ai l'air jeune, poursuivit négligemment le général. Mais je suis un peu plus vieux que je ne le parais. En 1812, j'avais 10 ou 12 ans. Moi-même, je ne sais pas au juste mon âge. Il n'est pas indiqué sur mon état de service. J'ai toujours eu la faiblesse de me rajeunir.
Soyez-en sûr, général. Je ne trouve pas étonnant du tout que vous fussiez à Moscou en 1812. Et sans doute vous pouvez raconter vos souvenirs, comme tous ceux qui se trouvaient là, alors. Un de ces autobiographes moscovites nous apprend au commencement de son livre qu'en 1812, il était un enfant à la mamelle et que les soldats français lui firent manger du pain.
Voyez-vous, mon cas sort de l'ordinaire, à coup sûr, reprit d'un ton bienveillant le visiteur.
Et pourtant, en soi, il n'a rien d'extraordinaire. Très souvent, la vérité paraît impossible.
Page de la chambre. Cela sonne singulièrement, sans doute. Mais l'aventure d'un enfant qui pouvait avoir alors 10 ans s'explique justement par son âge. À 15 ans, elle n'aurait pas eu lieu. Et cela par la bonne raison qu'à 15 ans, je ne me serais pas enfui de chez nous pour aller voir l'entrée de Napoléon à Moscou. Je serais resté avec ma mère, qui s'était laissée surprendre par l'arrivée des Français et qui tremblait de frayeur dans notre maison de bois de la Staraya Basmanaya. À 15 ans, j'aurais eu peur, mais à 10, je n'ai eu peur de rien. Et me frayant un passage à travers la foule massée devant le palais, je suis arrivé tout près du perron au moment où Napoléon est descendu de cheval.
Sans doute, vous avez très justement fait remarquer qu'un enfant de 10 ans, par suite même de son jeune âge, pouvait être intrépide, observa timidement le prince. Il se sentait rougir, et cette pensée le mettait au supplice.
Sans doute, et tous les événements se sont produits de la façon la plus simple, la plus naturelle, comme on ne peut le voir que dans la réalité. Qu'un romancier raconte cela, il y fourrera un tas de détails invraisemblables, impossibles.
Oh, c'est ainsi, s'empressa de reconnaître le prince. Cette idée m'était déjà venue, et j'y pensais encore dernièrement. Je sais un assassinat qui a eu pour mobile le vol d'une montre. À présent, les journaux en parlent. Si un écrivain avait inventé cela, les critiques et les gens qui se disent versés dans la connaissance du peuple auraient tout de suite crié à l'invraisemblance. Mais en lisant ce récit dans les faits divers des journaux, vous y retrouverez au plus haut degré le cachet de la réalité russe.
Votre observation est parfaitement juste, général,
acheva avec feu le prince, enchanté de pouvoir donner le change au vieillard sur la cause de sa rougeur.
N'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
S'écria Ardalion Alexandrovitch, rayonnant de joie.
Un gamin, un enfant qui ne comprend pas le danger, se glisse à travers la foule pour voir un brillant cortège, des uniformes, et enfin un grand homme dont il a beaucoup entendu parler.
Car alors, depuis plusieurs années, il n'était question que de lui dans toutes les conversations. Le monde était rempli de ce nom. Je l'avais, pour ainsi dire, sucé avec le lait. En passant à 2 pas de moi, Napoléon m'aperçoit par hasard. J'étais en costume de Bartchenok. Mes parents m'habillaient ainsi. Seul, ainsi vêtu, au milieu de cette foule, convenez-en vous-même. Sans doute, ça a dû le frapper, lui prouver que tout le monde n'avait pas quitté la ville, et que même des gentilshommes y étaient restés avec leurs enfants. Justement, justement, il voulait attirer à lui les barines. Lorsque son regard d'aigle se fixa sur moi, une flamme s'alluma probablement dans mes yeux, car il s'écria « Voilà un gaillard bien éveillé !» Puis il me demanda « Qui est ton père ? »
Je lui répondis aussitôt, d'une voix presque étranglée par l'émotion. « Un général qui est mort sur les champs de bataille de sa patrie. » « Le fils d'un boyard et d'un brave par-dessus le marché. J'aime les boyards. M'aimes-tu, petit ?» La réponse jaillit instantanément de mes lèvres. « Un cœur russe sait distinguer le grand homme, même dans l'ennemi de sa patrie. » Je ne me rappelle pas si je m'exprimais littéralement ainsi. J'étais un enfant. Mais tel fut certainement le sens de mes paroles. Elles impressionnèrent Napoléon. Il réfléchit et dit à son entourage. « J'aime la fierté de cet enfant. Mais si tous les Russes pensent comme lui... » Il n'acheva pas et entra dans le palais. Je le suivis, mêlé à l'escorte qui ne fit aucune difficulté pour m'ouvrir ses rangs, car on me considérait déjà comme un favori. Mais tout cela n'eut que la durée d'un éclair. Je me rappelle seulement qu'en pénétrant dans la première salle, l'empereur s'arrêta soudain devant le portrait de l'impératrice Catherine, le considéra longtemps d'un air rêveur, et à la fin s'écria « C'était une grande femme !» Après quoi il passa outre. Au bout de 2 jours, tout le monde me connaissait déjà au palais et au Kremlin. On m'appelait « le petit boyard ». Je ne revins chez moi qu'à l'heure du coucher. À la maison, on avait presque perdu la tête. Le surlendemain, mourut le page de la chambre de Napoléon, le baron de Bazancourt. Il n'avait pu résister aux fatigues de la campagne. Napoléon se souvint de moi. On m'alla chercher, on me ramena au palais sans me dire de quoi il s'agissait. Et, après m'avoir fait mettre l'uniforme du défunt, un enfant de 12 ans, on me présenta ainsi vêtu à l'empereur. Il me fit un léger signe de tête. Alors on m'apprit que Sa Majesté avait daigné me nommer page de sa chambre. Je fus ravi. Le fait est que depuis longtemps déjà, j'éprouvais pour lui une ardente sympathie. Et puis, vous savez, un bel uniforme, cela fait toujours plaisir à un enfant. Je portais un frac vert foncé, chamarré d'or, sur toutes les coutures. Une culotte blanche en peau de chamois, un gilet de soie blanc, des bas de soie et des souliers à boucles. Quand j'étais de service, pour accompagner l'empereur dans ses promenades à cheval, je mettais de grandes bottes à l'écuyère. Quoique la situation ne fût pas brillante et qu'on pressentît déjà de grands désastres, on ne se relâchait pas sur l'étiquette. Elle était même d'autant plus strictement observée que l'avenir s'annonçait sous de plus sinistres augures. « Oui, sans doute, » balbutia le prince d'un air presque égaré. « Vos mémoires seraient extrêmement intéressants. » Bien entendu, le général ne faisait que répéter ce qu'il avait déjà raconté la veille à Lebedev. Aussi, ses paroles coulaient-elles de source. Mais, en ce moment, il jeta de nouveau un coup d'œil inquiet sur son interlocuteur. « Mes mémoires ?» répondit-il avec un redoublement de fierté. « Écrire mes mémoires ? Cela ne m'a jamais tenté, prince. Si vous voulez, ils sont déjà écrits, mais je les garde dans mon bureau. Quand je serai enterré, qu'ils voient le jour, je ne m'y oppose pas. Alors, sans doute, ils seront traduits en plusieurs langues, non pour leur mérite littéraire, mais à cause des grands événements qu'ils relatent et dont j'ai été témoin oculaire. Je n'étais, il est vrai, qu'un enfant à cette époque. Mais c'est grâce à mon jeune âge que j'ai pu pénétrer dans l'intimité, dans la chambre à coucher du grand homme. La nuit, j'entendais les gémissements de ce géant dans le malheur. Il n'avait pas de raison pour cacher ses chagrins et ses larmes à un enfant. Bien que je comprisse déjà que ce qui le désolait, c'était le silence de l'empereur Alexandre. « Oui, il écrivait des lettres pour demander la paix, » dit avec hésitation le prince. « Nous ne savons pas au juste quelle proposition était contenue dans ces lettres, mais il écrivait chaque jour, à toute heure. Il expédiait courrier sur courrier. Son agitation était extrême. Une nuit, comme nous nous trouvions seuls à seuls, je m'élançai vers lui en pleurant. Oh, je l'aimais. « Demandez pardon à l'empereur Alexandre !» lui criai-je. J'aurais dû dire « Faites la paix avec l'empereur Alexandre !» Mais comme un enfant que j'étais, j'exprimais naïvement toute ma pensée. « Oh, mon enfant » répondit-il. Il se promenait de long en large dans la chambre. « Oh, mon enfant !» Il semblait alors avoir oublié que je n'avais que 10 ans, et même il aimait à s'entretenir avec moi. « Oh, mon enfant, je suis prêt à baiser les pieds de l'empereur Alexandre, mais pour ce qui est du roi de Prusse et de l'empereur d'Autriche, oh, à cela, haine éternelle. Et, enfin, tu n'entends rien à la politique. » Il parut se rappeler soudain à qui il parlait et se tut. Mais longtemps encore, ses yeux lancèrent des étincelles. « Eh bien, que je raconte par écrit tous ces faits, et j'ai été témoin de faits très considérables, que je les livre maintenant à la publicité, aussitôt tous ces critiques, toutes ces vanités littéraires, toutes ces jalousies, les partis politiques et... Non, votre très humble serviteur. Quant au parti, sans doute, vous avez raison, et je suis de votre avis, répondit le prince après un instant de silence. Tenez, tout dernièrement, j'ai lu le livre de Charras sur la campagne de Waterloo. Évidemment, c'est un livre sérieux, et les spécialistes assurent qu'au point de vue technique, il ne laisse rien à désirer. Mais, à chaque page, perce la joie que l'auteur éprouve de l'humiliation de Napoléon. Et si l'on pouvait contester à celui-ci tout talent militaire, même dans ses autres campagnes, il semble que Charras en serait excessivement heureux. Eh bien, dans un ouvrage si sérieux, cela ne vaut rien, parce que c'est l'esprit de parti. Étiez-vous fort occupé alors par votre service auprès de l'empereur ? Ce langage causa la plus grande satisfaction au général. En entendant le prince lui parler d'un ton si naïvement sérieux, il sentit s'évanouir les derniers restes de sa défiance. « Charras, oh, j'ai été moi-même indigné. Je lui ai écrit alors, mais je ne me rappelle plus maintenant. Vous me demandez si mon service me donnait beaucoup d'occupation ? Oh non, on m'avait nommé page de la chambre, mais je n'ai jamais pris cela au sérieux. » De plus, Napoléon perdit bientôt tout espoir de se concilier les sympathies des Russes, et comme c'était par politique qu'il m'avait attaché à sa personne, sans doute il n'aurait pas tardé à m'oublier. S'il n'avait pas eu une réelle affection pour moi, j'ose le dire à présent. De mon côté, je me sentais attiré vers lui. Le service se réduisait à peu de choses. Il fallait quelquefois se montrer au palais et... accompagner l'empereur dans ses promenades à cheval, voilà tout. J'ai passablement monté à cheval. Il sortait avant le dîner, dans la suite figurait d'ordinaire Davoust, moi, le mamelouk Roustan. Constant ne put s'empêcher d'observer le prince. Non, Constant ne se trouvait pas là alors. Il était parti avec une lettre pour l'impératrice Joséphine. Mais à sa place, il y avait 2 ordonnances, quelques hulans polonais. Eh bien, voilà toute la suite, en laissant de côté naturellement les généraux et maréchaux dont Napoléon se faisait accompagner pour examiner avec eux l'état des lieux, la disposition des troupes, etc. Le plus souvent, il prenait avec lui Davoust, je le vois encore. Un homme grand, gros, flegmatique, avec des lunettes et un regard étrange. C'était lui que l'empereur consultait le plus volontiers. Il faisait cas de ses idées. Je me rappelle qu'ils tinrent conseil pendant plusieurs jours. Davoust venait matin et soir. Souvent même, ils se disputaient. À la fin, Napoléon parut se ranger à l'avis de son conseiller. Je me trouvais dans le cabinet où avait lieu l'entretien. Mais on ne faisait pas attention à ma présence. Soudain, le regard de Napoléon tombe sur moi. Une étrange pensée brille dans ses yeux. « Enfant, me dit-il tout à coup, donne-moi ton opinion. Si j'embrasse l'orthodoxie et si j'affranchis vos serfs, les Russes se rallieront-ils à moi ?»« Jamais !» m'écriai-je avec indignation. Ce mot frappa Napoléon. La flamme patriotique qui vient de s'allumer dans les yeux de cet enfant me révèle, dit-il, la pensée de tout le peuple russe. Assez, Davoust, tout cela n'est que de la fantaisie. Exposez-moi votre autre projet.
Oui, mais ce projet n'était pas mal imaginé tout de même, dit le prince, qui avait écouté le général avec un intérêt visible.
Ainsi vous attribuez cette idée à Davoust.
Du moins, elle se fit jour durant l'entretien qu'ils eurent ensemble. Sans doute c'était une idée napoléonienne, une idée d'aigle. Mais l'autre plan ne manquait pas non plus de crânerie. C'est le fameux « conseil du lion », comme Napoléon lui-même a appelé ce conseil de Davoust. Voici en quoi il consistait. Tuer tous les chevaux, les saler, réquisitionner tout le blé possible et hiverner au Kremlin après l'avoir mis en état de défense. Puis, le printemps venu, s'ouvrir un passage à travers les Russes. Ce projet séduisait Napoléon. Chaque jour, nous faisions à cheval le tour du Kremlin et l'empereur indiquait les travaux à exécuter. Ici, une lunette, là, un ravelin, ailleurs, une rangée de blocos. Bref, la chose était à peu près arrêtée en principe. Mais Davoust insistait pour qu'on prît une résolution définitive. Ils eurent ensemble une nouvelle conférence à laquelle j'assistais encore. Napoléon, les bras croisés, se promenait dans la chambre. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage. Mon cœur battait avec force.
« Je m'en vais, » dit Davoust.
« Où ?»«
Je vais faire saler les chevaux, » reprit le maréchal.
Napoléon frissonna. Son sort allait se décider.
« Enfant, » me dit-il tout à coup, « que penses-tu de notre dessein ?»
Naturellement, il me faisait cette question, comme parfois dans un moment suprême, il arrive à l'homme le plus intelligent de jouer son avenir à croix ou pile. Au lieu de répondre à Napoléon, je m'adressai à Davoust.
« Général, » lui dis-je d'un ton qui avait quelque chose d'inspiré, « retournez chez vous. »
Le projet de rester à Moscou fut abandonné. Davoust haussa les épaules et se retira en murmurant
« Bah, il devient superstitieux !»
Et le lendemain, on donna l'ordre du départ.
« Tout cela est extrêmement intéressant !» remarqua le prince à voix basse. « Si tout cela s'est passé ainsi, entendons-nous, je veux dire... »
se hâta-t-il d'ajouter, craignant d'avoir blessé le général. Mais, enivré de son récit, Ardalion Alexandrovitch ne se serait peut-être pas arrêté, lors même qu'il eut rencontré chez son interlocuteur l'incrédulité la plus manifeste.
« Tout cela, dites-vous, prince, » s'écria-t-il. « Mais il y a eu plus. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup plus. Je ne vous ai encore raconté que des misères, des faits politiques. Mais, je vous le répète, j'ai été témoin des larmes, des gémissements nocturnes de ce grand homme. Et cela, personne ne l'a vu, excepté moi. »
Vers la fin, à la vérité, il ne pleurait plus. Mais il gémissait souvent, et son visage s'assombrissait de plus en plus. On aurait dit que l'éternité l'avait déjà couvert de son aile. La nuit, nous passions parfois des heures entières, seuls, silencieux. Le mamelouk croustant ronflait dans la pièce voisine. Cet homme dormait comme un sabot.
« En revanche, il est dévoué à moi et à la dynastie, » disait de lui Napoléon. « Une fois, je me suis senti ému d'une telle pitié que les larmes me vinrent aux yeux. L'empereur s'en aperçut, et me considéra avec attendrissement.
« Tu me plains ? » s'écria-t-il.
« Toi, un enfant ? Et peut-être il y a aussi un autre enfant qui me plaint. Mon fils, le roi de Rome. Tout le reste des hommes me hait, et dans mon malheur, mes frères seront les premiers à me trahir. »
Je m'élançai vers lui en sanglotant. Alors il ne put y tenir. Nous nous embrassâmes et confondîmes nos larmes.
« Écrivez, écrivez une lettre à l'impératrice Joséphine, » lui dis-je à travers mes sanglots.
Napoléon tressaillit, et après un moment de réflexion,
« Tu m'as rappelé un troisième cœur qui m'aime, » me répondit-il.
« Je te remercie, mon ami. »
Il s'assit aussitôt devant son bureau et écrivit à Joséphine. Le lendemain, Constant partit avec la lettre.
« Vous avez très bien fait, » dit le prince.
« Tandis qu'il s'abandonnait à des pensées haineuses, vous avez réveillé en lui un bon sentiment. » « Justement, prince, c'était à cela que je voulais arriver. Et par une intuition de votre cœur, vous l'avez admirablement compris !» s'écria le général enthousiasmé. En même temps, chose étrange, de vraies larmes se montraient dans ses yeux. « Oui, prince, oui, c'était un grand spectacle. Et savez-vous, je fus sur le point de le suivre à Paris. Et sans doute, j'aurais partagé sa captivité dans l'île torride. Mais hélas, la destinée nous sépara. Nous nous quittâmes. Il partit pour l'île torride, où peut-être, dans quelques moments de poignante tristesse, il s'est rappelé les larmes du pauvre petit garçon qui l'embrassait en lui disant adieu à Moscou. Moi, je fus envoyé au corps des Calais, où je ne trouvais qu'une discipline brutale, des camarades grossiers et... Hélas, tout cela est loin. Je ne veux pas t'enlever à ta mère et je ne te prendrai pas avec moi, me dit-il le jour de son départ. Mais je désirerais faire quelque chose pour toi.
Il était déjà à cheval.
Écrivez-moi quelque chose, comme souvenir sur l'album de ma sœur, fis-je timidement, car je voyais qu'il était très agité et très sombre. Il demanda une plume, prit l'album. « Quel âge a ta sœur ? » poursuivit-il, comme il avait déjà la plume en main. « 3 ans, répondis-je. « Petite fille, alors. » Et il traça ces mots sur l'album. « Ne mentez jamais, Napoléon, votre ami sincère. » Un tel conseil, et dans un tel moment, avoué, prince. Oui, c'est significatif. Tant que ma sœur a vécu, elle est morte en couche. On a pu voir cet autographe dans son salon, où il était accroché à un mur sous un transparent. Depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais... Ah, mon Dieu, déjà 2 heures. Comme je vous ai retenu, prince, c'est impardonnable. Le général se leva. Pas du tout, au contraire, murmura le prince. Vous m'avez tellement intéressé, et, enfin, tout cela est si curieux, je vous suis bien reconnaissant. Ardalion Alexandrovitch serra de nouveau à lui faire mal la main de son interlocuteur et fixa sur lui un regard enflammé. Il semblait tout remué par une idée soudaine qui venait de s'offrir inopinément à son esprit. « Prince, dit-il, vous êtes si bon, vous avez le cœur si ingénu que parfois je suis tenté de vous plaindre. Je vous considère avec attendrissement. » « Oh, que Dieu vous bénisse, que votre vie commence et fleurisse dans l'amour. La mienne est finie. Oh, pardon, pardon. » Il couvrit son visage de ses mains et se retira en toute hâte. Son émotion était sincère, le prince n'en pouvait douter. Ce dernier comprenait également que le vieillard s'en allait enivré de son succès. Mais il le soupçonnait d'appartenir à cette classe de menteurs qui, tout en se grisant de leur hâblerie, ne s'illusionnent jamais qu'à demi sur la crédulité de leurs auditeurs. Dans le cas présent, il pouvait se faire qu'à l'exaltation succéda bientôt chez le général une confusion extraordinaire, et alors il verrait une offense dans l'indulgente attention avec laquelle le prince l'avait écouté. « N'ai-je pas eu tort de flatter sa manie ?» pensa Mnouchkine avec inquiétude. Tout à coup, il fut pris d'une folle envie de rire et pouffa pendant 10 minutes. Peu s'en fallut qu'ensuite il ne se reprochât cette hilarité, mais il reconnut qu'il n'avait lieu de rien regretter, attendu qu'une immense compassion lui avait seule dicté sa conduite à l'égard du général. Les faits donnèrent raison à ses pressentiments. Le soir, il reçut une lettre étrange. En termes brefs, mais péremptoires, Ardalion Alexandrovitch l'informait qu'il ne voulait plus avoir de relation avec lui, qu'il l'estimait et lui était reconnaissant, mais que même de sa part il se refusait à accepter des témoignages de pitié humiliants pour la dignité d'un homme déjà assez malheureux sans cela. Quand le prince apprit que le vieillard était rentré chez Nina Alexandrovna, il fut presque rassuré sur son compte. Mais, comme le lecteur le sait déjà, Ardalion Alexandrovitch alla voir Elisabeth Prokofievna et se comporta chez elle d'une façon déplorable. Sans raconter cette entrevue par le menu, bornons-nous à dire que le visiteur effraya la générale Epanchine et excita son indignation par d'amères allusions concernant Gania. On le mit honteusement à la porte. Voilà pourquoi le vieillard passa une nuit si agitée, pourquoi aussi le lendemain il fut de si méchante humeur, et finalement s'élança hors de la maison dans un état voisin de la démence. Kolia, qui ne comprenait encore rien à l'affaire, crut devoir procéder par la sévérité. « Eh bien, où irons-nous maintenant? Qu'en pensez-vous, général ? » dit-il. « Vous ne voulez pas aller chez le prince, vous vous êtes brouillé avec les Bedef, vous n'avez pas d'argent, moi je n'en ai pas. Nous voilà maintenant sur des fèves, au milieu de la rue. »
« Il est plus agréable d'être avec des femmes que sur des fèves, » marmotta le général. « Avec ce calembour, j'ai obtenu un succès étourdissant dans un cercle d'officiers, en 44, en 1844, oui. Oh, ne m'en fais pas souvenir, non. Où est ma jeunesse? Où est ma fraîcheur? » comme s'écriait... « De qui est cette exclamation, Kolia ?»
C'est dans Gogol, dans les âmes mortes, papa, répondit Kolia, et il jeta à la dérobée un regard inquiet sur son père.
Les âmes mortes, oh oui, mortes, quand tu m'enterreras, écris sur ma tombe, si j'y une âme morte, l'opprobre me poursuit. Qui a dit cela, Kolia?
Je n'en sais rien, papa. Le général interrompit un instant sa marche.
« Héropiegov n'a pas existé. Héroshka Héropiegov !» fit-il avec véhémence. « Et c'est mon fils, mon propre fils, Héropiegov, un homme qui m'a tenu lieu de frère pendant 11 mois, pour qui je me suis battu en duel. Le frère Vigorietsky, notre capitaine, lui dit, comme on était en train de boire, « Toi, Grisha, où as-tu gagné ta croix de Sainte-Anne? Réponds. « Sur les champs de bataille de ma patrie, voilà où je l'ai gagné. » Je crie « Bravo, Grisha !» Eh bien, un duel s'ensuivit, et plus tard, il épousa Marie Petrovna Soutougine, et il fut tué sur les champs de bataille. Une balle ricocha contre la croix que je portais sur ma poitrine et alla le frapper en plein front. « Je ne t'oublierai jamais » cria-t-il, et il tomba, expirant. J'ai servi honorablement, Kolia. J'ai servi noblement. Mais l'opprobre me poursuit. Nina et toi, vous viendrez visiter ma tombe. Pauvre Nina. Je l'appelais ainsi autrefois, Kolia, il y a longtemps. C'était dans les premiers temps de notre mariage. Et elle aimait cela. Nina, quel sort je t'ai fait. Comment peux-tu m'aimer, âme patiente? Ta mère a une âme angélique, Kolia, entends-tu? Angélique.
Je le sais, papa. Papa, cher, retournons à la maison près de maman. Tout à l'heure, elle a couru après nous.
Eh bien, pourquoi restez-vous là? On dirait que vous ne comprenez pas. Voyons, qu'est-ce que vous avez à pleurer?
Kolia lui-même pleurait et baisait les mains de son père.
C'est à moi que tu baises les mains? À moi?
Eh bien oui, à vous, qu'est-ce que cela a d'étonnant? Voyons, vous, un général, un homme de guerre, comment n'êtes-vous pas honteux de braire ainsi au milieu de la rue? Allons, venez.
Dieu te bénisse, cher enfant, pour le respect que tu as conservé à un infâme.
Oui, à un vieillard déshonoré, ton père.
Puisses-tu avoir un fils qui te ressemble?
Le roi de Rome.
Oh, malédiction sur cette maison!
Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? S'écria Kolia pris d'impatience. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ne voulez-vous pas revenir maintenant à la maison? Avez-vous perdu l'esprit?
Je vais t'expliquer. Tu sauras tout. Je vais tout te dire. Ne crie pas, on peut nous entendre.
Le roi de Rome. Oh, que je me sens triste. Nia, Nia, où est ta tombe?
Qui a prononcé cette parole, Kolia?
Mais je ne sais pas qui, je ne sais pas. Retournons tout de suite à la maison, tout de suite. Je casserai les os à Ganka, s'il le faut. Mais où allez-vous encore?
Mais le général ne voulait rien entendre et entraînait son fils vers le perron d'une maison voisine.
Où allez-vous? Ce n'est pas là que nous demeurons.
Le vieillard s'assit sur le perron. Il tenait toujours Kolia par le bras et s'efforçait de l'attirer plus près de lui.
« Baisse-toi, baisse-toi,
balbutiait-il. Je vais tout te dire. Baisse-toi, approche ta tête, je te dirai cela à l'oreille. »«
Mais qu'est-ce que vous avez ? »
fit Kolia effrayé. Pourtant, il obéit.
« Le roi de Rome !»
balbutia le général qui paraissait tout tremblant.
« Quoi ? Et qu'est-ce que vous avez à toujours parler du roi de Rome ? Eh bien !»
« Je... »
reprit à voix basse le général en se cramponnant de plus en plus fort à l'épaule de son fils.
« Je veux... je te...
tout,
Marie,
Marie,
Petrovna sous... »
Kolia se dégagea, saisit lui-même son père par les épaules et le regarda d'un air affolé. Le vieillard était pourpre, ses lèvres se violaçaient, de légères convulsions crispaient son visage. Tout à coup, il se pencha et commença à s'affaisser doucement sur le bras de Kolia. Celui-ci comprit enfin ce qu'il en était.
« Il a une attaque d'apoplexie !»
cria-t-il d'une voix qui retentit dans toute la rue.